Europe 1 Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à l'instant, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invitée, la chanteuse et désormais poète, peut-être même poète licencieuse, Jeanne Chéral. On parle de son recueil Couleurs primitives, recueil illustré. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Jean Z.
Bonjour.
Et je salue évidemment Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe.
Bonjour Jean-Luc. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage, la bien nommée. Et hier, vous avez zappé entre deux programmes parlant du même thème.
Oui Philippe, mais il faut que je vous explique pourquoi. Depuis que je fais cette chronique et que vous me faites travailler jour et nuit, je vous avoue que je n'ai plus de vie de famille. Hier, j'ai croisé mes enfants dans mon salon, ils m'ont dit « Bonjour monsieur, qui êtes-vous » Donc, pour compenser le manque affectif, j'ai zappé entre « Maman est célèbre » sur TFX et « Famille nombreuse, la vie XXL » sur TF1. Alors, c'est deux salles, deux ambiances. « Maman est célèbre », pour vous résumer, c'est des mamans issues de la télé-réalité qui ont des préoccupations de maman de télé-réalité.
Je trouve ça cool, moi, le surf, le mood. Moi, je suis très Californie, Malibu, Australie, tout ça. C'est vraiment les moods que j'aime. Du coup, on va surfer.
Ouais, on va brûler les calories.
Trop cool. Par contre, je sais pas surfer.
Ouais, elle aime le mood, mais elle sait pas surfer. Je vous avoue qu'en regardant Maman est célèbre, j'ai eu envie d'être maman moi-même. Parce que j'avais une vision assez erronée du métier de maman. Je croyais que c'était surtout des contraintes. Et bah, pas tant que ça. C'est surtout où tu vas bien pouvoir surfer à Dubaï. Hein ? Et quand tu veux occuper ton gamin, bah, tu l'emmènes pas dans une piscine à balles sur une aire d'autoroute où tu lui envoies pas un clown qui va lui faire des teckels tout pourris en ballon. Non, tu lui offres un studio d'enregistrement avec un rappeur qui l'aide à accoucher d'une chanson. Je vous assure que c'est vrai. Là, le rappeur résumait tous les mots que le petit Menzo avait écrit sur une feuille.
Yo, c'est Menzo, j'ai 7 ans et demi et je roule en Ferrari.
Je suis tout petit.
Non. En même temps, ça rime. Hein ? C'est vraiment la France d'en bas. Après, faut pas croire qu'ils sont que privilégiés, les enfants de cette émission. Dans Maman est célèbre, t'as aucun gamin à qui on pourra dire bonne fête cette année. T'as des Isao, des Inaya, des Maëla, des Menzo. Étonnamment, aucun Philippe et aucun Jean-Luc.
Pas de Jean non plus.
Non.
Pas de Stéphanie.
Je crois qu'on a des gros prénoms de ringards, les amis. Hein ? Je suis désolé de vous dire ça. On est des losers. Donc, pour pas me déprimer plus, je suis passé sur Famille Nombreuse pour savoir si les mamans cherchaient aussi des bons spots de surf. Je suis tombé dans la famille Servière.
Chez les Servières, on a une grosse consommation de yaourt. Il nous faut 13 yaourts par jour. Ça fait 90 yaourts par semaine et 390 yaourts par mois.
Et voilà, tout de suite le matériel et on se vante. Nous, c'est 390 yaourts par mois. Ça m'énerve. Vous imaginez quand le petit Menzo, il a croisé un gamin de la famille. Eh, moi j'ai une Ferrari. Eh ben moi j'ai 390 yaourts. Le petit Menzo, hein, il va nous faire une dépresse. Bon, plus sérieusement, j'étais très impressionné par ces familles nombreuses. Je sais pas si vous vous rendez compte du machin. Quand la famille Servière part en pique-nique, ça donne ça.
Pour un pique-nique chez les Servières, il nous faut 46 tranches de pain de mie, un paquet de 10 tranches de jambon, un paquet de 30 tranches de saucisson, deux pâtés, mayo ketchup. Il faut pas les oublier, ceux-là. Parce que...
Bon, vous avez compris, c'est pas une famille végane. Non. Non, mais je me suis repassé l'extrait plusieurs fois. Je sais toujours pas pourquoi ils voulaient de la mayo ou du ketchup avec leur pâté. Mais bon. Donc, les Servières, c'est une des familles qu'on suit dans l'émission. Et ce soir-là, les parents réunissent leurs 8 enfants dans le salon.
Papa et maman, ça nous arrive pas souvent qu'ils nous réunissent. Et on comprend pas. On est là, mais pourquoi ?
Alors, on a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Oula !
Et là, tu sens les enfants blasés. Ils sont déjà 8. Papa et maman veulent leur annoncer quelque chose.
Oh non.
Suspense.
Non, 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 mais...
Quand t'es l'aîné de la famille, je pense que là, t'as une grosse impression de déjà-vu. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent, les enfants ?
Il faut que vous deviniez. C'est des jumeaux.
Moi, j'aimerais bien voir des frères jumeaux.
Au début, j'ai cru que la petite, à la fin, avait dit « Oh, moi, j'aimerais bien avoir des frères siamois. » Il faut la comprendre, quand t'as déjà 7 frères et sœurs, t'as envie d'un peu de nouveauté. Et ben, tout le monde avait faux. C'est pas ça que la maman voulait annoncer.
On va faire une sortie. Vous allez voir des choses qui ont des poils.
Voilà, finalement, ils ont emmené dans un camp naturiste.
Non,
je plaisante. Non, mais Philippe, voyons.
Mais avec vous, on sait jamais. C'est ça qui est passionnant.
Ils ont été dans une réserve d'animaux. Ah. Et la maman nous explique pourquoi elle voulait faire cette surprise.
Si on veut leur faire plaisir aujourd'hui, c'est pour leur montrer que c'est pas parce qu'un 9e bébé va arriver que ça va changer quelque chose dans la maison.
Ah, moi, je crois que si. On va dépasser les 400 yaourts par mois. Et ça mériterait bien une chanson.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain et je salue vos enfants qui n'ont pas souvent l'occasion de vous saluer, non, si j'ai bien compris. Stéphanie Loire, le programme, votre indispensable ce matin.
Je vais parler de la réédition d'un album excellent de Pink Floyd qui s'appelle Animals.
Album mythique. Jean Z, c'est un jeu mythique dont vous nous parlez, mais avec une histoire terrible.
Oui, on ne va pas parler d'un jeu, mais d'un piratage spectaculaire, celui d'un des jeux vidéo les plus populaires du monde, GTA 6.
Dans un instant, on sera avec Jeanne Chéral pour parler de son recueil de poésie, son premier. Mais on va d'abord l'écouter chanter. C'est son titre Voilà sur Europe 1, Jeanne Chéral.
Europe 1, Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour Philippe.
Auteur, chanteuse, compositrice, vous êtes fait connaître du grand public en 2004. C'est votre deuxième album, 12 fois par an. 250 000 exemplaires vendus, une victoire de la musique, je ne vais pas tout citer. Le précédent album en 2019, l'an 40. Et puis est venu le confinement, tournée stoppée après une trentaine de dates, pour dire que ça marche pour vous toujours. Entre temps, vous avez publié un livre. À 5 ans, je suis devenu terre à terre, titre énigmatique. Et là, vous revenez avec un livre au titre non moins énigmatique. Il s'appelle « Couleurs primitives », c'est chez Grund. Il y a un sous-titre, « Un nuancier érotique », sous-titre durassien. Ouvrage illustré par Petite Luxure, c'est écrit sur la couverture, c'est au pluriel, Petite Luxure. Avant de vous demander qui sont ces Petites Luxures, je vous demandais de décrire le dessin de couverture que je montre à l'image, vous pouvez le voir sur europe1.fr.
Alors c'est un fond entre turquoise et bleu plus soutenu, bleu un peu océanique, et on voit une femme en train de plonger dans l'eau. Et c'est une vue justement en plongée,
ouais.
Donc on la voit nue et on fait le focus sur son beluga. Pour savoir ce qu'est le beluga, on pourra ouvrir le livre.
Le beluga serait pas un mot savant pour dire fesse ?
Non, alors le beluga c'est un animal, c'est un genre de baleine,
oui.
un animal.
Je connais ça, mais je voyais pas rapport avec la couverture. Jamais j'aurais pensé au beluga en voyant la couverture.
C'est
d'où ma question.
C'est la couleur. Enfin, je me suis attachée aux couleurs dans ce livre. Il y a 30 couleurs, mm-hmm. Donc des couleurs qui sont pas bleu, jaune, rouge. Hein. Effectivement, beluga c'est un blanc, un petit peu un blanc. Peau non bronzée, quoi,
oui.
Blanc.
Mais vous n'êtes pas coloriste à la base.
Non, pas du tout.
Vous êtes plutôt autrice et poétesse. C'est des textes, comment on peut les qualifier, d'érotiques, comme vous dites, un nuancier érotique, de l'érotisme nuancé.
Ah, bah, ça peut être ça, effectivement. Moi, j'avais cette idée de faire un nuancier un petit peu comme un nuancier Pantone avec... Sans respecter cette chromatologie, enfin, je sais pas comment on dit, mais de partir d'un rouge pour aller jusqu'au violet, mais j'ai organisé mes couleurs un peu comme elles venaient, enfin elles sont organisées par ordre alphabétique.
Mais vous savez, comme on est à la radio, les couleurs on les voit très
ouais,
peu.
C'est vrai,
moi, ce qui m'intéresse,
c'est
vraiment radiophonique. Mais je me suis dit peut-être qu'elle veut pas parler des textes.
Bah si.
Langue. Tes mots sont vifs, nerveux, charnels, définitifs, irrationnels. Quand ils palpitent en turgescence, ils précipitent mon impatience. Tes mots sont crus et rock'n'roll, je montre à cru sur tes paroles. Leur peau est fine, leur viande épaisse, leur chair sanguine et leur corps topless. Et là, c'est que le début de ce titre qui s'appelle Langue. Dans quel état d'esprit vous les avez écrits ? Pourquoi des textes érotiques comme celui-ci, par exemple ?
J'avais très envie d'écrire des textes en vers. J'aime beaucoup les contraintes de forme, les contraintes des textes...
Pardon de ma question naïve, c'est pas ce que vous faites en écrivant des chansons ? Elles sont pas en vers, vos chansons ?
Si, mais en général, quand j'écris des chansons, j'aime beaucoup que les paroles et la musique avancent en même temps.
Mmh.
Et là, je pense que j'ai pas écrit de la même manière. Enfin, je me suis attachée à des formes très... très contraignante en fait. Il y a des alexandrins, c'est quelque chose que je fais moins en chanson quand même.
Ouais, il y a parfois ça forme un triangle qui rappelle des choses.
Ouais, qui peut rappeler un pubis par exemple.
Voilà.
Et
parfois c'est très osé. Ma question était pourquoi des textes érotiques ? Il y a un texte qui s'appelle Charbon. On va le dire, c'est une ode au sextoy. Au fond d'un tiroir secret tapissé de velours craie, je conserve dans la moire un fabuleux sceptre noir. Je saute un paragraphe, son diamètre est dans ma main, large comme un parchemin, que j'aimerais lire en braille, de mes doigts qui le tenaillent. Et puis j'aime bien cette référence à un grand poète qu'on a étudié quand on était en sixième, j'aurais jamais pensé retrouver cette phrase. Il suffit pour l'animer d'une impulsion programmée, car il a comme il se doit deux trous rouges au côté droit. Et c'est le dormeur du Val.
Le dormeur du Val.
Mais avec des piles neuves.
Oui, bravo. Ça m'a vraiment amusée, quoi, d'aborder des sujets... de me sentir un peu sans limite dans le fond, dans le propos, alors que je me suis imposé des limites très, très cadrées pour la forme. Quoi. Des vers très réguliers, des rimes, etc. Et j'ai beaucoup aimé ces deux manières de faire, quoi.
Des vers dans un langage vert. Jeanne Chéral avec nous, on continue d'en parler. On va parler musique parce qu'il y a une sortie d'album, une ressortie, vous vous souvenez d'Animals de Pink Floyd?
Oui, bien sûr.
Eh bien, ça revient. Stéphanie Loire aussi revient. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Jeanne Chéral, Les couleurs primitives. Le titre ne présage pas de ce qu'il y a dans le livre, un nuancier érotique. On n'a pas encore parlé de Petite Luxure qui signe les dessins. On va en parler. Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Jeanne. Bonjour.
Vous parlez musique avec nous, vous nous parlez de la réédition d'un album légendaire de Pink Floyd.
Et cet album légendaire, c'est Animals, le 10e du groupe, initialement publié en 1977. Album considéré comme l'un des meilleurs enregistrés par David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters et Richard Wright. Cette réédition dont je vous parle, elle contient un remix stéréo, un remix 5.1 surround, un mix original stéréo de 1977.
Donc celui qu'on connaît.
Et un livret de 32 pages illustré de photos rares en clair. Il s'agit d'un gros coup de polish qui vient mettre en valeur le son de chaque instrument. La basse sonne comme Jaja, les cymbales gagnent en netteté, les claviers sont dans leur tenue de gala et la guitare acoustique prendre l'envergure, exemple avec cet extrait de Pings on the Wig. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the buggers to blame. And watching for pigs on the wing. C'est un peu l'inverse de ce que vous avez dit, hein.
Pigs on the Wing.
C'est exactement ce que j'avais dit pourtant. C'est un album qui a été initialement inspiré du livre de George Orwell, La ferme des animaux. Animals, c'est un disque qui attaque le capitalisme et l'autorité abusive, une grande métaphore animalière de l'humanité. Les morceaux qui composent l'album s'appellent Pigs, donc les cochons.
Ouais.
Les cochons, ce sont ceux qui tiennent le pouvoir. Il y a aussi Dogs, les chiens prêts à tout, à tous les compromis pour survivre. Et puis enfin, Sheep, qui sont les moutons, les faibles.
C'est ce qu'on entend en fond, c'est le piano électrique.
Les deux autres catégories, exactement. En bref, ceux qui s'en prennent plein la tronche. On écoute Sheep. Se lit sur le visage de Philippe Vandel.
Ça sonne de ouf. L'original sonnait déjà de dingue. Et c'est là, un c'est... album que j'écoute toujours. Et mon morceau préféré culte, c'est Pigs, qui a même été repris. Enfin, toute la construction par un morceau des Smiths extraordinaire.
Je suis ravie de vous entendre avec autant d'engouement, Philippe. Ouais. C'est pas toujours le cas avec ce que je présente. Présent,
Donc je c'est l'actu, hein.
Exactement. L'actu, hein. Je suis ravie.
Sors pas un chef-d'œuvre tous les jours.
Je précise que Chip, c'est une composition de Roger Waters qui dure tout de même 10 minutes. Ouais. Mais bon, 10 minutes, qu'est-ce que c'est dans une vie? Voilà. Hein, écouter de la bonne musique plutôt que, je sais pas, c'est le temps de sortir son chien. C'est 3 minutes de plus que le rapport sexuel moyen aussi. Voilà, c'est une petite info. Vous en ferez ce que vous voudrez. Philippe. Animals, album légendaire de Pink Floyd, remixé en surround 5.1. Il est disponible partout.
Et vous avez une autre info qui concerne Pink Floyd, Stéphanie.
En 1973, Pink Floyd chantait Money, It's a Crime. Eh bien, presque 50 ans plus tard, le groupe pourrait être au centre d'une des plus grosses transactions financières dans le milieu de la musique. Après Bruce Springsteen et Bob Dylan, Pink Floyd pourrait vendre son catalogue minimum 500 millions de dollars, selon l'agence Bloomberg.
Waouh, Pink Floyd, 75 millions d'albums rien qu'aux États-Unis. Ouais. C'est vous qui m'avez glissé ce chiffre phénoménal.
Un beau catalogue. Dernière info au sujet de Pink Floyd, Roger Waters va faire une tournée d'adieu en 2023. Il a annoncé 3 concerts en France, à Paris et à Lille, à l'Accor Arena à Paris les 3 et 4 mai, au Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq le 12 mai. Les places, elles seront dispo à partir du 23 septembre à 10h.
Voilà, mais Waters tout seul, il est fâché avec David Gilmour, le guitariste.
Ouais, c'est la guéguerre.
Et pour conclure, un peu de poésie chéralienne. en hommage à notre invité, un peu de poésie dans ce monde de brut.
Oui, enfin votre poésie, Jeanne Chéral. Dans votre spectacle sobrement intitulé Cinéma, seul au piano, vous revisitez une sélection de chansons puisées dans l'histoire du cinéma avec beaucoup de délicatesse qui vous caractérise. Et dans ce chant d'amour au 7e art, vous venez titiller notre âme d'ado avec cette reprise de Reality sur la BO de La Boum. Merci Jeanne Chéral.
Plaisir. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in real. It seems as if it's meant to be.
Stéphanie a des paillettes dans les yeux.
J'adore. Grâce à vous, moi, comme Vic dans La Boum, je broie du rose.
Oh, que c'est beau.
Pink Floyd, c'était quelque chose, non?
Ah ben moi, David Gilmour, c'est mon guitariste préféré du monde de tous les temps. Ouais. Vraiment, je suis folle de cet artiste.
Pareil.
C'était un beau moment musical.
Pour moi, un des cinq. Merci ouais. beaucoup, Stéphanie Loire.
Merci.
On
à
continue
demain.
De parler de poésie avec Jeanne Chéral et aussi de Fesses Nues. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Jeanne Chéral qui signe Couleurs primitives, ce nuancier érotique publié chez Grund, illustré par Petite Luxure. Petite et Luxure, c'est au pluriel, il vaut mieux comme ça, c'est accordé. Qui sont ces Petites Luxures qui signent les illustrations? C'est un garçon, c'est une fille, c'est un collectif?
C'est un homme qui s'appelle Simon Francard. Et j'ai découvert son travail au départ par son compte Instagram, qui est magnifique. Enfin, il publie des images, enfin, des dessins très détourés, très, très simples et en même temps très crus. Il va assez loin dans l'évocation de la sensualité et avec beaucoup de délicatesse. Et j'ai eu très envie de travailler avec lui. Et en fait, je l'ai contacté très simplement via ce réseau social pour lui dire que j'avais envie de travailler avec lui.
Et il a dit oui tout de suite.
Ouais, et c'est vrai que c'est ce oui originel qui m'a donné l'impulsion pour écrire ce premier texte qui s'appelle Fujita. Le premier texte de...
Ça a démarré comment, Fujita? C'était un peintre?
Oui, un peintre des années folles. Et c'est un peintre dont j'ai vu une expo il y a 2-3 ans au musée Mayol. Une expo qui lui était consacrée et je suis tombée un peu en pamoison devant un grand nu féminin qui était très, très simple, avec très très peu de couleurs, mais il y avait la couleur rose qui était utilisée pour évoquer les seins, les tétons du modèle, ouais. qui m'a complètement... attrapée, fascinée. Enfin, j'ai eu cette espèce de révélation sur ce rose... Rose Fujita.
Et il y a un poème qui s'appelle justement Fujita.
Oui.
Comme quoi tout ça est bien fait exprès. La dernière fois que vous étiez venu nous voir, vous aviez donné un spectacle. C'était à la demande de Thierry Frémaux qui s'occupe du Festival des Lumières, Festival de cinéma à Lyon, qui est aussi délégué général du Festival de Cannes. Mais là, c'était le Festival de Lyon spécifiquement pour chanter des chansons autour de films, mais sans les montrer sur grand écran. On a entendu La Boum. C'est ouais. Stéphanie qui a passé La Boum parce que... rappeler des choses. Il y avait Peau d'Agne, il y avait Bagdad Café, également Jésus revient. Et j'ai lu que vous deviez aller chanter ces titres-là à Londres, à New York, à Los Angeles. Est-ce que vous l'avez fait? Et si oui, c'était comment?
Je l'ai fait.
C'était comment?
I did it. Bah, c'était génial. C'était un privilège de pouvoir aller chanter aux États-Unis. Je ne l'avais jamais fait.
Mais c'était une grande salle, une petite salle?
C'était des petites salles français. Bah non, justement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de francophones, mais il y avait quand même pas mal d'Américains.
Ouais.
Et j'ai joué dans des petits théâtres, un petit théâtre dans Manhattan, un petit théâtre à Los Angeles, à Minneapolis. Et j'ai quand même, malgré mon niveau d'anglais qui est quand même extrêmement faible, j'ai pris le parti de parler seulement anglais entre les morceaux pour expliquer un petit peu d'où venaient ces chansons. Et j'ai adoré cette expérience.
En parlant de cinéma, Brand Rhapsody, le morceau avec Benjamin Biolay, c'est un peu comme un mini-film, comme un court-métrage.
Oui, c'est vrai.
Vous l'avez écrit comment? Il faut raconter, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille, seulement vu à travers les post-it qu'on colle sur le frigo.
Ouais, aujourd'hui ce serait peut-être des SMS parce qu'on l'a écrite en 2009 cette chanson, donc on était peut-être moins connectés. Enfin bon. Et c'est l'histoire d'un couple, une histoire d'amour, de l'étincelle de la rencontre jusqu'au fossé de la séparation.
Mais vous l'avez écrit à deux?
Oui.
Mais vous l'avez vraiment écrit séparément, sans que personne ne lise ce qu'a écrit l'autre, un peu comme les surréalistes et les cadavres exquis?
Oui, c'est ça. On l'a écrite chacun dans un coin, une nuit en studio, au studio de la Seine à Paris. Et on s'est, en fait, on n'a pas du tout mis en commun nos phrases, nos post-it. On les a directement chantées l'un après l'autre sur le... C'est, dans le micro, quoi.
C'est extraordinaire. Moi, je pensais que vous l'avez fait chacun de votre côté, chacun de son côté, mais ensemble, pas du tout, séparément. Et on a l'impression que c'est fait totalement ensemble.
Mmh. 9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Ce jingle avec un son bien pourri comme dans Mario Kart nous indique qu'on va parler de jeux vidéo avec vous, Jean Z. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes fan de jeux vidéo, Jeanne, ou pas ?
Ah, pas du tout.
Et d'arnaque ?
Ah oui. Ah,
ça vous plaît, parce que Jean, ce matin, vous nous parlez d'un piratage spectaculaire, celui d'un des jeux vidéo les plus populaires au monde.
Ouais, le mot populaire n'a rien d'exagéré. Hein. Sorti il y a presque 10 ans, le jeu GTA, Grand Theft Auto, GTA 5, s'est vendu à près de 170 millions d'exemplaires sur la planète.
170 millions.
170, donc ça fait quoi ? Ça fait près de 7 milliards de dollars de recettes, voilà, à son éditeur américain Take-Two.
De recettes, pas de budget. Ils ont engrangé 7 milliards de dollars.
Le budget de production, c'est 225 millions. 7 milliards. Et le jeu continue encore, puisqu'il y a GTA Online, donc ça continue à fructifier. Seul Minecraft ou Tetris ont fait mieux. Et pour rappel, GTA, c'est une saga née en 1997. Il se présente comme un simulateur de voyous en milieu urbain. New York, Los Angeles, braquage de banque, vol de voiture, course-poursuite, sexe, drogue, rock'n'roll, hip-hop. Chaque épisode de la série est l'occasion de dresser un portrait au vitriol des États-Unis et de l'American Way of Life. Des aventures sulfureuses, décriées pour sa violence, notamment par les politiques. Et pourtant, ce sont bien des best-sellers. GTA 6 a été officiel en février dernier. Alors pour vous dire, c'est le jeu le plus attendu de la décennie. Vous oubliez Call of Duty, vous oubliez Mario Kart, vous oubliez FIFA. C'est GTA 6. C'est vraiment l'attente la plus folle des joueuses et des joueurs. Pour l'instant, on avait eu droit à rien, c'est-à-dire à aucune info, juste GTA 6. Ok, d'accord, ça va sortir, on ne sait pas quand, avant l'apparition dimanche d'images volées sur Internet.
Alors pour l'anecdote, je vous ai envoyé hier un article du Figaro qui a fait un quart de page sur le sujet et vous m'avez même parlé du piratage du siècle. Jean, racontez-moi.
Bah, 3 gigaoctets de données, plus de 90 captures vidéo du jeu, une heure d'image au total dans le secteur du jeu vidéo, ce piratage est sans précédent dans son volume et jusqu'au jeu ciblé, parce que le jeu ciblé c'est quand même le jeu le plus attendu.
Et Jeanne, c'est énorme, hein, 3 gigaoctets de données.
ça
lui parle.
Bon, non, c'est beaucoup. Non, tellement impressionné.
Ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est prodigieux comme piratage.
Non, mais j'ai commencé pour les geeks et petit à petit j'ai dit une heure de jeu. Derrière cette fuite monumentale, il y a un hacker.
Merci de vous adapter.
L'hacker a entre 16 et 18 ans, enfin en tout cas il l'aurait entre 16 et 18 ans. Il a vidé une plateforme de partage de fichiers interne à Rockstar et le studio a confirmé le piratage et depuis il fait la chasse aux vidéos publiées. Le hacker affirme détenir également le code source complet de GTA 5 et GTA 6, c'est-à-dire la technologie derrière les jeux. En gros, il a la recette du Coca-Cola vidéoludique.
Incroyable. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ces images ?
Alors, ça confirme deux rumeurs, hein, cette heure de vidéo qui a fuité. GTA 6 se déroulera dans la ville de Vice City, la ville du vice, inspirée de Miami, déjà mise à l'honneur en 2002 par un épisode GTA. Et le personnage principal sera une femme, en tout cas serait une femme, une première dans GTA. Elle est prénommée Lucia et on peut la voir et l'entendre. Hein, on est à la radio en jean militaire. Évidemment, elle braque un fast-food.
Who wants to be next?
Oh my God. Don't make me, okay?
Voilà. Ça sonne comme ça un GTA. Voilà. Wow. Ça, c'est ça un GTA. Généralement, il y a le bruit de la police, des bruits de flingues. Et Lucia ne sera pas seule, elle sera associée à un certain Jason. À eux deux, ils formeront sans doute un couple à la Bonnie and Clyde. Alors si vous parlez un peu anglais, vous aurez entendu le langage un peu vert des personnages. Autre particularité, les jeux GTA sont en VO sous-titrés. Voilà. Uniquement, c'est de l'américain, d'ailleurs il y a des accents et c'est assez génial. Et dans la vraie vie, le FBI a ouvert une enquête.
Je reviens à ce braquage, à ce piratage, quelles seraient les conséquences de ce vol pour GTA et son studio ?
La communication surtout, là ça fait pchit, hein, l'effet de surprise, il n'y en a plus, hein, on connaît les héros, donc ça c'est fichu. Et côté code source, ça va être difficilement exploitable, mais quand même le pirate demande la somme faramineuse.
Le pirate, combien il demande ? Ils ont gagné 7 milliards de dollars, combien il demande le pirate ?
10 000 dollars.
C'est un communiste.
Non, il a entre 16 et 18 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Et en fait, il se rend pas
10
bien.
Voilà,
il
demande 10 000
dollars. Il est marxiste.
Non, mais c'est les pièces jaunes.
C'est incroyable.
Mais pourquoi il ne donne pas les 10 000 et il l'engage ? Parce qu'avoir un type qui est capable de vous pirater, c'est un type qui est capable de vous protéger.
Il est possible qu'un jour, il soit effectivement un salarié de Rockstar.
Ouais, je pense juste à tous ces gens, dont moi, qui des fois n'arrivent pas à imprimer. Alors que l'imprimante, elle est connectée, j'y arrive pas. Comment il est arrivé à pirater ça à 16 ans ?
16 ans, 18 ans, ouais, c'est vraiment très très fort. Est-ce qu'il était seul ? Ça, on ne sait pas. Le FBI, il le dira sans doute par la suite.
Merci, c'est complètement
semble dingue cette histoire.
Oui, c'est la rançon qui est extraordinaire.
Mais évidemment, c'est la chute, c'est ça vous fait une petite tendresse, non,
bah
pour ce
oui,
gars-là.
Bah bien sûr. Enfin, un gars qui n'est pas mu par l'appât du gain, c'est très très rare quand même. Chapeau.
Les mecs chez GTA, ils doivent rigoler. Genre, oui, 10 000 dollars.
Qu'est-ce que c'est?
Tu
non,
les as sur toi?
Non, ils rigolent moyen.
Jean-Marc, tu les as sur toi? Ouais, je les ai, je lui donne. Merci beaucoup, Jean Z. Dernière ligne droite de Culture Média avec Jeanne Chéral. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Jeanne Chéral, qui signe illustré par Petite Luxure, dont on vient d'apprendre que c'était un garçon, moi je l'ai appris. Couleur primitive, un nuancier érotique. Vous nous l'avez dit, c'était parti d'une expo au musée Mayol qui vous avait interpellé. J'avais encore jamais vu ça, il faut parler des couleurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pages vides, en fait non vides, mais avec des aplats de couleurs.
Ouais. Oui, oui, avant chaque texte, j'avais envie de. Qu'on voit la couleur tout entière sur une page sans avoir son nom. On tourne la page et on a voilà, vous avez charbon.
Ceci sur europe1.fr.
Une page rouge, vous tournez, vous avez diurifique. Enfin, on découvre le nom de la couleur après.
C'était avant. C'était avant l'augmentation du prix du papier que la décision a été prise.
Ouais, j'étais. Ouais.
Est-ce que ces poèmes pourraient devenir des chansons? Est-ce que c'est une écriture totalement différente?
Pour moi, c'est totalement différent, mais je ne ferme pas la porte à l'idée de les mettre peut-être un jour en musique. Ce n'est pas mon habitude d'avoir des textes d'avance et de mettre des musiques dessus. J'aime bien quand les deux avancent en même temps, mais ce serait dommage de me dire non, je ne le ferai jamais.
Mmh. Et vous avez déjà écrit des textes érotiques dans des chansons?
J'ai déjà abordé le sujet, oui.
Un peu plus. On avait passé ici un extrait de la chanson 69. Donc, comme vous dites, un titre qui aborde le sujet. et ce n'est pas le département du Rhône. Mais sur un album plus ancien, c'était l'histoire de J. Il y avait le titre Cheval de feu. Vous y allez direct, Jeanne Chéral. Ça commence comme ça.
Viens par ici, cheval à fumant. Viens dans le giron de maman. Je t'attendais du bout des lèvres, allongé sur ma peau de chèvre. Approche un peu, cheval indocile. Approche voir ce beau missile. Il fait si chaud dans mon varech que je pourrais te cuire le steak. Viens fouiller le buisson.
Je pourrais te cuire le steak, déjà, faut oser. Heureusement que c'est vous qui chantez ça. Et viens goûter la figue à
c'est
la crème.
C'est mon côté journal du Hard.
Que je te gardais pour carême. Merci pour cet hommage. Vous savez quand est-ce que ça fait le plus gros effet, ceci? C'est quand vous l'écoutez sur un smartphone, parce que vous avez les paroles qui défilent en même temps, comme un karaoké.
Ah oui. Ah oui, c'est vrai.
Et les mots vous sautent à la figure, comme une sorte d'animation. On dit quoi? Mais c'est la petite Jeanne avec sa voix de velours qui chante et qui pense surtout des choses pareilles. Je ne vous le reproche pas, vous avez bien raison. En 2020, vous avez publié un livre très intime une fois encore. À 5 ans, je suis devenu terre à terre. C'est publié chez Point dans la collection Le goût des mots, dirigé par Vincent Delerme. Je ne me souviens plus juste un mot.
Si à part c'est... Philippe Delerme.
Voilà, je ne sais plus si c'était Philippe ou Vincent. C'est Philippe.
C'était Philippe.
Ça m'a posé une question.
Eh ben voilà, c'est ma réponse.
C'est
Philippe.
À 5 ans, je suis devenu terre à terre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est un extrait du premier texte de ce glossaire. C'est un glossaire de mes 40 mots préférés.
Ouais.
Et donc, c'est dans le texte Cocotier où je parle de. C'est un souvenir d'enfance où mon père disait souvent bah voilà, t'as gagné le cocotier. C'est une expression que j'aimais beaucoup. Et je parle de cet état de pureté, de naïveté qu'on a quand on est enfant. Et on est un peu dans. On surplombe un peu le monde, je trouve, quand on est un tout petit enfant. On a accès à des. Je sais pas, quand j'étais petite, j'imaginais l'infini, j'imaginais des choses auxquelles j'ai plus accès aujourd'hui. J'ai l'impression qu'un enfant, il a accès à un savoir métaphysique, infini, et on le perd petit à petit en entrant dans les codes sociaux, quoi.
D'où le terre à terre.
Ouais, voilà.
Mais quand votre papa vous dit que vous aviez gagné le cocotier, pour reprendre l'expression que vous avez prise, vous imaginez vraiment que vous aviez un cocotier et que vous l'aviez gagné?
Bah, j'attendais mon cocotier.
Et vous ne l'avez jamais eu?
Jamais.
C'est des définitions que vous donnez à des mots précis, une quarantaine. Il y a le verbe vampiriser, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous dites avoir été vampirisé par une fan, ou plutôt, vous racontez à la troisième personne l'histoire d'une chanteuse vampirisée par une femme, mais on comprend très bien que c'est vous.
Oui, c'est un texte effectivement très, très intime et j'ai pas eu, je pense, le courage peut-être de mettre « je » dans. Ouais. Donc j'ai pris une narratrice extérieure en racontant oui, ce phénomène d'invasion par une personne. Que c'est quelque chose qu'on peut connaître hein, au cours de sa vie, le fait de se sentir envahi. Moi, c'est quelque chose qui me fait très très peur au quotidien, de me sentir envahi par quelqu'un.
Ah bon ? Par une personne ou ouais. Par les fans ? Parce que vous avez une vie de femme et vous avez un métier public.
Ouais, enfin, je veux dire, même en dehors de mon métier, je veux dire, c'est quelque chose personnellement, c'est quelque chose qui me fait assez peur, quoi, de me sentir envahie, piégée. J'aime beaucoup la solitude et j'aime beaucoup plus que tout la liberté. Et donc, voilà, la vampirisation pour moi, c'est un. On parle de nocivité des fois, des gens qui sont nocifs, toxiques. Il faut vraiment s'en prémunir.
Prochain projet, il sera musical ou il sera avec des dessins, avec des textes, sera quoi?
Ce sera un album.
Vous avez déjà commencé, parce que j'ai vu à votre sourire que vous avez déjà commencé.
Ouais, je suis dessus.
Voilà. Et ça va être dans quelle tonalité? Vous savez
c'est,
déjà
c'est vraiment très dur de parler des choses quand on est en train de les faire. J'ai l'impression qu'on s'en dépossède un petit peu, donc
je vais poser ma question différemment. Est-ce que vous composez des chansons et quand vous arrivez à un certain nombre, ça fait un album? Ou est-ce que, comme on écoutait Animals, est-ce que quand vous faites un album, vous dites « il y a un concept, il y a une idée, et voici l'idée que je vais développer, comme Camille a fait le fil, ou comme, je sais pas, moi, Nougaro a fait un album à New York ».
Oui, c'est vrai.
Sans
que
rien dévoiler.
Le fait d'avoir un concept de départ, ça m'est arrivé hein, sur un album qui s'appelait L'eau, par exemple, ou même L'an 40, mon dernier disque, j'étais vraiment...
C'est l'affirmation de soi, quarantaine.
Voilà, la quarantaine, j'étais dans cet éclairage-là. Et ça m'aide beaucoup d'avoir une idée principale qui me structure, qui structure mon acte ouais. de composition et d'écriture. Je
et pense. Donc là, en l'occurrence, pas du tout.
Pour le prochain ?
Ouais.
Mais je vous ai dit que vous ne direz rien.
Ah, mais je pensais que vous alliez au moins répondre à cette question, à savoir, est-ce qu'il y a un fil directeur ou est-ce qu'il n'y en a pas?
Je ne sais pas. Vraiment, Philippe, je ne peux pas répondre.
Je vais poser la question différemment maintenant, parce que vous avez souvent dit ça. Vous avez dit, moi, j'ai zéro tube, ce qui est ma chance, parce que j'ai zéro obligation au concert. Est-ce que vous avez un tube dans cet album?
Non, mais j'espère. Non, mais je dis j'ai zéro tube. J'allais pas dire oh là là, c'est vraiment nul. Il faut prendre le côté positif du fait de pas avoir de tube.
Mais
je préférerais avoir un tube, un tube qu'on puisse passer le jour de ma mort.
Le jour de votre mort, on va passer
Brand Rhapsody.
Mais c'est un enfer aussi d'avoir un tube. Imaginez Desireless, qu'est-ce qu'elle a à part Voyage Voyage? C'est un enfer. C'est un enfer d'avoir un énorme tube qui surplombe tout ce qu'on a produit.
Oui, tout mais c'est aussi une super belle reconnaissance de rentrer dans l'inconscient populaire des gens et d'avoir une chanson comme ça. On ne sait plus trop qui l'a écrite, mais elle existe.
Je vous souhaite un Born to be Alive à entendre dans le prochain album de Jeanne Chéral.
Né pour être vivant. Ce sera mon tube.
Ces gens sont fous. Merci beaucoup Jeanne Chéral d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Couleur primitive, un nuancier érotique illustré par Petite Luxure et c'est publié chez Grunt. Merci à tous. On se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec les journalistes Marie Colman et Gérard Lefort, des ex du journal Libé qu'on a bien connu, qu'on a beaucoup lu. Justement, elle raconte dans un livre illustré comment Libé s'est imposé comme ce monument culturel qu'on connaît avec l'histoire de l'intérieur d'histoire. Et puis Valérie Lemercier qui prête sa voix à un documentaire sur Bourvil réalisé par Bernard Farou. Ils seront avec nous tous les deux. Le Mercier, Bernard Farou, Bourvil nous surplombera. Et puis le comédien Nicolas Duvauchel pour une série qui est déjà un véritable phénomène. 1 million de vues en quelques jours, Les Papillons Noirs sur Arte. Elle se moque de moi parce que j'ai parlé de Bourvil. Franchement, dernière fois qu'on se parle. Oui, surplombe Bourvil. Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Quel programme aujourd'hui, s'il vous plaît?
Eh bien, bonjour Philippe déjà. Oui, politesse en premier. Est-ce que faire l'amour, ça s'apprend ou est-ce que c'est inné? C'est la question qu'on va se poser dans Bienfait pour vous. Vous avez un avis?
J'ai une petite histoire. Vous connaissez le point commun entre le sexe, la guitare et le foot?
On n'avait pas préparé.
C'est pas une blague.
La vanne
c'est pas une blague.
Ouais, c'est quoi?
Je sais pas. On peut se faire plaisir même avec un tout petit niveau.
Oui, c'est bien.
Alors que
c'est
le violon mignon. Ou le piano ou le patin à glace, il faut en avoir fait, il faut s'entraîner. Tandis que là, on se débrouille très très bien.
Même avec un petit niveau, comme vous dites.
Le foot et le troisième, c'est quoi?
Et la guitare. Vous savez faire deux accords, les Sex Pistols sont montés sur scène, les groupes punk, avec deux accords et ils remplissaient les salles.
Et avec le sexe, deux accords, c'est déjà pas mal.
Déjà, deux accords, ça veut dire qu'on est d'accord.
Exactement.
Et c'est la base du sexe.
Et bien écoutez,
bravo.
C'est le sujet de Bienfait pour vous.
Magnifique de conclure là-dessus.
Tout ça en impro. Bisous. Culture Média revient demain à 9h. Salut, bonne journée. Salut, Gérald. Ciao.